Ça va mieux, Jean-François Mignard, Léonore Socara, Jacques Lavergne, bonjour. Ça va mieux l'émission, l'on commente l'actualité du monde. Bienvenue à toutes et à tous sur Esprit Occitanie. Bien, nous sommes là tous les trois. Alors, c'est pas tout à fait vrai ce que je dis. Les hommes, Jean-François Mignard et moi-même, sommes en studio et Léonard Socaras nous parle depuis son université par la magie des ondes. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler de ce qui fait l'actualité. La loi immigration et le Conseil constitutionnel, la grande grogne des agriculteurs, et puis on va quand même prendre l'air, on va passer de l'autre côté de l'océan, on va aller voir avec Léonore qu'est-ce qui se passe au Venezuela ou à l'Argentine.
En Argentine.
Allez, en Argentine, aujourd'hui c'est l'Argentine. En Argentine, voilà, c'est, ça va mieux, c'est parti. C'est sur Esprit Occitanie, la radio web. On commence par la traditionnelle citation. L'homme n'est pas seulement un être qui vit en société comme les autres primates et s'y adapte, mais un être qui doit produire de la société pour continuer à vivre. Je ne vous demande pas de qui c'est, parce que moi j'ai aussi découvert l'auteur de cette phrase, c'est Maurice Godelier.
Ah, hein, Maurice grand anthropologue.
Voilà, grand anthropologue.
Notre grand anthropologue.
Voilà, de Cambrai, donc un homme qui n'a jamais dit de bêtises, bien sûr. Un des tout premiers partisans de l'intégration du marxisme à l'anthropologie à l'époque. Hein.
Oui, il a évolué depuis, mais c'est un grand anthropologue qui nous reste, on va le dire comme ça.
Voilà, et qui a passé quand même quelques années en Papouasie-Nouvelle-Guinée avec les Baruyas.
Tout à fait, qui viennent de sortir un livre absolument fascinant, justement, sur l'approche anthropologique et sa carrière.
Voilà une citation qui nous permet d'apprécier la vaste culture de Jean-François Mignard.
Je joue un peu à la maison là sur l'anthropologie, donc c'est moins difficile que pour d'autres secteurs. On va le dire comme ça.
Allez, commençons de suite par cette fameuse loi immigration et son Conseil constitutionnel, lequel a rendu sa copie, sans grande surprise, une partie du texte assez substantielle puisque. Ils ont censuré à peu près 40% hein, du texte, d'après ce que j'ai compté.
30 articles.
30 articles sur 81, je crois.
C'est ça.
Une loi d'immigration qui tourne à la farce, au sujet de laquelle le personnel politique n'est pas sorti grandi, et la démocratie, malheureusement, encore moins. Comment un président de la République et un gouvernement peuvent-ils faire voter une loi dont ils savent, et ils affichent même publiquement, qu'ils en considèrent certaines dispositions comme inconstitutionnelles, et la défaire d'ailleurs de même devant le Conseil constitutionnel? Comment un parti qui se veut de gouvernement comme les Républicains, ou ce qu'il en reste, peut-il imposer, ajouter à la loi au cours d'une négociation de dupes des dispositions qui sont manifestement hors sujet, puisque qualifiées de cavaliers législatifs, mot admirable, par le Conseil constitutionnel? C'est totalement irresponsable. Comment certains responsables de ce parti, justement, qui visent à la magistrature suprême, je regarde du côté de Lyon, par là-bas, vous voyez, qui j'évoque, peuvent-ils se permettre de qualifier la décision du Conseil de gouvernement des juges? À quoi jugent les partis de gauche qui ont tout fait, en s'alliant à l'extrême droite d'ailleurs, pour que la loi ne soit pas discutée, la renvoyant de facto à une procédure intégrant les douteuses dispositions de leurs ennemis politiques? Avec bien sûr au final une attitude du Rassemblement national qui montre encore une fois qu'il s'assoit sur les grands principes républicains. Et enfin, dernière question, comment le président de la République peut-il prêter la main à ce genre de basse manœuvre politicienne qui l'a amené à se faire tenser, donner la leçon juridique par Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel? Il n'a pas été d'ailleurs le seul juriste, et même des gens qui appartiennent au camp de M. Macron, à lui faire la leçon. Bref, nul doute que beaucoup d'électeurs doivent être amers avec le profond sentiment d'être pris par des imbéciles, par nos politiciens, qui s'étonneront ensuite, avec des larmes de crocodile, d'une désaffection des urnes. Jean-François Mignard.
Ben, comme d'habitude, dans votre brillante introduction, Jacques, vous
merci,
avez dit...
j'adore les
un aspect déjà de la situation, voilà. Que dire, alors, sur la procédure, il me semble qu'il y a deux choses. Sur la procédure, vous avez beaucoup parlé de la question de la procédure. On pourrait rajouter que le Conseil constitutionnel ne s'est pas honoré dans son incapacité qu'il a pu avoir à faire autre chose que du formalisme juridique.
Ce qui est quand même son rôle.
Oui, mais son rôle, c'est aussi d'aller peut-être quelquefois sur le fond au niveau des principes constitutionnels.
Il y est allé sur 3 articles.
Voilà. En gros, il a écarté une trentaine d'articles pour raison de cavalier législatif. Et là, on est sur des questions de forme. Et il a censuré en partie 3 articles pour des questions qui étaient des questions de fond. Mais les associations de défense des droits de l'homme ou celles qui œuvrent auprès des gens qui sont dans des situations de précarité, des migrants ou des choses comme ça, n'attendaient pas grand-chose du Conseil constitutionnel, puisque elles n'ont pas du tout été déçues d'ailleurs, hein, puisque de toute façon le Conseil constitutionnel a toujours été très pusillanime sur aller sur le fond sur les questions qui sont les questions liées à la question des migrations. Il aurait effectivement pu aller plus loin. Il aurait pu être piégé ce faisant à suspecter de remplir une fonction qui n'est pas la sienne. De toute façon, on était parti dans une logique perdant-perdant, qui était que, à la sortie, si bien de ça dont on l'accuse, alors que ce n'est pas de ça ce qu'il a fait, hein, ce n'est pas le gouvernement des juges. Et on est rentré dans une espèce de rhétorique détestable qu'on connaît bien, qui est celle de la d'extrême droite et de la droite extrême et de plus en plus de la droite, qui serait d'opposer un supposé gouvernement des juges, un gouvernement, la légitimité juridique à la légitimité politique, qui ferait que la majorité en gros pourrait tripatouiller tout ce qu'elle veut dans la mesure où elle a accumulé le plus gros tas de votes et s'asseoir sur un certain nombre de principes. Rappelons ici que la loi de la majorité, c'est pas uniquement l'exercice du pouvoir du plus grand nombre, c'est la capacité à protéger aussi les minorités. La démocratie, c'est ça. Et on sent bien que tout ça part dans une dérive qui est une dérive extrêmement dangereuse. Là-dedans, bien entendu, qui sort gagnant, l'extrême droite, qui là, de ce point de vue, là, encore accumulé un certain nombre de choses au prix de crapulerie idéologique. J'ai eu le malheur d'assister, de regarder les débats à l'Assemblée nationale et au Sénat. Je pense qu'on a atteint aujourd'hui le fond des arguments et des éléments de conception idéologique qu'on n'était certainement imaginé pas attendre de nos élus il y a encore de ça quelques années. On a entendu des discours xénophobes, certains carrément flirtant avec le racisme. Voilà, tout ça dans une enceinte qui est une enceinte, qui est celle de notre Parlement. L'extrême droite en est sortie renforcée certainement. Darmanin et le gouvernement macroniste qui a monté cette chausse-trappe, qui a déjà été évoqué, en gros, à la sortie, c'est encore une fois une pantalonnade en termes de procédure qui se fait sur le dos des migrants, qui encore une fois sont une variable d'ajustement politique dans notre pays. En gros, quand on a besoin de durcir un peu le ton, on parle migration, voilà. Et à la sortie, effectivement, on a une cinquantaine d'articles de loi qui laissent penser. Ce que dit d'ailleurs le ministre de l'Intérieur qui a une haute idée de nos capacités cognitives quand il nous parle qu'il fait une loi gentille pour les gentils et méchante pour les méchants, je le cite, ce qui veut dire qu'il nous estime certainement à haut niveau de compréhension pour nous parler comme ça. Mais là, on a une cinquantaine d'articles qui sont des articles qui sont redoutables et tout en laissant penser que en fin de compte, on est revenu à la loi initiale, qui en fait est une loi relativement anodine. C'est pas du tout le cas. D'une part, parce que la loi, au passage, a été durcie bien moins que si on avait intégré dedans les 30 articles qui ont été retoqués par le Conseil constitutionnel, mais parce que ça va se traduire concrètement au quotidien par un accroissement. Alors,
de difficultés qui sont des difficultés que vont vivre les migrants, qui ne rangeront en rien certainement toute la question qui est la question de la crise. Alors, pas tant des migrations, parce que la crise des migrations, parlons-en, des politiques migratoires, mais de l'accueil que nous réservons effectivement à ces gens-là. Voilà. Donc, c'est une séquence qui est une séquence, en gros, perdant-perdant pour la démocratie, ça a déjà été évoqué, qui est perdant-perdant pour nous aussi. Hein, attention, ce qu'on fait aux migrants, l'histoire nous le dit, ça. Hein, ce qu'on fait aux plus faibles ou aux plus éloignés de notre statut à nous n'est en règle générale qu'annonciateur de dérives qui sont dérives qui petit à petit touchent tout le monde. Hein, ça, on l'a déjà vécu, cette affaire-là. La manière dont on traite les migrants, nous en dit long sur la manière dont on traite les faibles, puis les moins faibles, etc., etc. Voilà. C'est assez atterrant parce que tout ça n'a aussi fait conforter que des fantasmes, des représentations autour de choses qui sont des choses qui ont été construites dans l'idéologie qu'on partage là et qui prennent de plus en plus de place. Et pour faire partie des gens qui essayent de déconstruire justement ces espèces de fantasmes idéologiques de trouille généralisées qu'on peut avoir vis-à-vis de l'autre et de l'étranger, on mesure que c'est chaque fois plus risqué, plus dangereux, plus difficile de sortir de la trouille et d'essayer de regarder les choses froidement, sans concession, sans faire d'angélisme, mais d'essayer de voir comment, en respectant nos principes et nos valeurs, on est capable d'affronter des situations qui sont des situations compliquées, qui sont celles des migrations, compliquées pour tout le monde.
Léonore, sur cette question, un commentaire.
Oui, bien sûr. C'est une loi que... C'est concernant le rôle du Conseil constitutionnel, c'est vrai que cette régularisation sur les papiers, sur la loi d'immigration... C'est intéressant de voir que sur 86 articles, ils ont eu 35 annulations. Ça veut dire qu'il n'y a pas une communication qui est claire. On voit également comment le ministre de l'Intérieur, il avait promulgué une loi pour contrôler l'immigration, mais également améliorer l'intégration. Donc, on revient par rapport à l'idée que vient de dire Jean-François concernant la manière comme on traite les immigrants. Et on voit qu'il manque un équilibre sur cette loi parce que il propose également, cette nouvelle loi qu'il propose, c'est trouver l'équilibre. Il a dit tout à l'heure en tant que des lois pour les gentils, être gentil pour les gentils. Je suis tout à fait d'accord avec vous que cette manière de nous traiter, c'est pas très... on nous traite comme des enfants, mais un projet équilibré, en quoi consiste, c'est créer l'intégration, mais également la répression. Donc, on voit une confusion dans ces lois. On voit que la régularisation sur les gens qui sont ici, qui travaillent, qui ne sont pas régularisés, et ça mène également à une pensée de la manière comme nous on est traité, mais la manière également confuse des, on ne sait pas exactement où on va parce qu'il y a une force d'extrême droite qui prend encore plus de la place dans la pensée des gens en regardant toujours les migrants comme un danger. Ces gens qui n'ont pas de documents, non, ils sont en danger. Donc, ces situations nous amènent au rôle du Conseil constitutionnel, quel est son rôle? Est-ce qu'il est censé être le gardien des droits? Mais est-ce qu'il est vraiment un gardien des lois, des droits? En suivant l'actualité, on se rend compte que son rôle en tant que gardien n'est pas forcément clair quand il s'agit de la loi d'immigration. Donc, on voit qu'il y aura une répercussion dans les élections parce que l'extrême droite prend de la force dans les élections et dans l'idée des gouvernements en mettant à l'écart les immigrants. Donc, c'est un sujet que je tiens à cœur parce que en tant qu'étrangère dans ce pays, même si ça fait des années que je suis ici, c'est quelque chose qui me touche énormément. On endurcit les lois, je peux comprendre dans certains cas, mais c'est pas pour tout le monde. Et un pays se construit parce que on sait vivre ensemble. On peut dire que le vivre ensemble, ça devient un peu difficile à comprendre dans certains aspects. Mais si on regarde de plus près, on met des lois, on applique des lois qui sont confuses. Contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, de quelle manière? Par la force? Je ne crois pas que ça fonctionne comme ça. Je ne le crois pas.
Merci de ce point de vue, de cette analyse, Léonore. Je pense que nous n'avons pas grand-chose à rajouter sur ce sujet qui, de façon récurrente, reviendra au cours de nos émissions durant cette année 2000.
Surtout que c'est un long feuilleton que nous a livré le ministre de l'Intérieur depuis des mois. Hein, et je rappelle que c'est une loi qui est annoncée depuis longtemps et qui, encore une fois, a servi de bons systèmes de manipulation politique ou politicienne, ce faisant.
Voilà, contrairement à d'autres lois que beaucoup attendent et espèrent, comme par exemple la loi sur la fin de vie, toujours reportée par M. Macron, nous sommes bien gouvernés. Nous passons au deuxième sujet. On parle de la grande grogne des agriculteurs avec cette question qui en rappellera une autre dans l'histoire. Est-ce une révolte ou une révolution? Voilà, sire. Non, c'est une révolution, c'est pas une révolte. Alors, moi, je pense que tout au plus, c'est une jacquerie que le gouvernement et son premier ministre, comprenez l'omniscient et l'omniprésent Emmanuel Macron, puisque le premier ministre n'est que son faux nez, vont désamorcer grâce aux recettes habituelles du cynisme, des mots aussi ronflants que creux, un peu d'argent, bien sûr, et beaucoup de promesses qui n'engagent à rien et ou qui sacrifieront l'environnement. Question pourtant existentielle pour nous tous. S'il est une profession qui est en souffrance, c'est quand même bien celle des agriculteurs, laquelle recouvre sous cette même appellation des réalités humaines, économiques, sociales bien dissemblables, métier pluriel, éleveur, cultivateur bio ou pas, viticulteur, etc. Générations différentes, aux aspirations qui le sont aussi, géographie et climatologie diverses, et surtout des tailles d'exploitation sans commune mesure, engendrant des intérêts et des contraintes qui n'ont rien d'identique. Mais pour la plupart de ces agriculteurs, endettements colossaux, revenus dérisoires, heures travaillées considérables dont une partie importante consacrée à une paperasserie délirante et tatillonne, concurrence déloyale de produits en provenance de pays qui sont très loin d'imposer les mêmes suggestions à leurs agriculteurs, suicides à répétition, main-d'œuvre introuvable, manipulation de substances chimiques dangereuses, gigantesques coopératives agricoles dominatrices, pour ne pas dire pour certaines esclavagistes, industriels de l'alimentation et de la grande distribution engrangeant leurs profits sur leur dos, première victime des modifications du climat, hein, vous le savez, sécheresse de plus en plus prononcée, aux rares précipitations brutales et ravageuses, et en première ligne de l'incontournable transition écologique, n'en jetez plus. Prisonnier d'un modèle économique aberrant né durant les Trente Glorieuses, où le productivisme absolu fut la règle, modèle soigneusement entretenu par un syndicat, la FNSEA, pour ne pas le nommer, aux mains d'industriels du secteur poussant au toujours plus, régnant en maître sur la profession et faisant la pluie et le beau temps au ministère de l'Agriculture, beaucoup de nos paysans souffrent. Leur vie est dure, ingrate, parfois désespérante, souvent sans respect ni reconnaissance. Et d'ailleurs, il n'est pas certain qu'ils les acquerront, ce respect et cette reconnaissance, au moyen de dégradations sauvages et inacceptables des biens publics, jusqu'ici tolérés par un pouvoir incapable d'imaginer des solutions novatrices et pérennes, corseté qu'il est dans une vision du monde datée, figée, voire étroitement partisane. Alors, contrairement à ce que certains laissent complaisamment entendre, écologistes et agriculteurs ne sont pas en opposition, ils ont bien au contraire beaucoup de choses à se dire, certes dérangeantes pour une FNSEA défenseur des grandes exploitations quasiment industrielles, mais dérangeantes aussi pour un pouvoir adepte du libéralisme à tout craint et qui veut ignorer les problématiques environnementales qui représentent une menace des plus sérieuses pour l'ensemble des populations. N'oublions pas la formulation du président Macron, le quinquennat sera écologique ou ne sera pas, je crois qu'il ne va pas être. Au moment où la France connaît de sérieux défis à surmonter, il n'est pas certain que ce soit avec des gouvernants sans vision prospective élevée que nous y parviendrons. Il me semble que la situation exige mieux que de prétentieux intendants aux commandes. Léonore, sur cette question.
Alors, sur l'actualité des agriculteurs, c'est vrai que c'est une profession en souffrance et c'est un sujet qu'on ne parle pas assez. C'est concernant, d'ailleurs vous l'avez mentionné, et c'est sur les suicides des agriculteurs. De plus en plus, c'est pressant. Et on ne parle pas assez de la souffrance et de la manière comme ils sont traités au niveau des les gouvernements, comment on traite nos agriculteurs à travers des lois, qui met en place des systèmes qui ne sont pas forcément convenables pour nos agriculteurs. On est dans un éco-régime, mais ça amène à réfléchir sur la manière comme ils sont traités. Ils ne reçoivent pas les aides suffisantes pour pouvoir se développer. Quoique, si on entend ici à la région, dans la région Occitanie, dernièrement, Madame Delga est sortie en disant que son décès, qu'il comprend la souffrance des agriculteurs, mais c'est pas simplement de comprendre, c'est d'agir pour eux. Et si on donne la possibilité qu'ils travaillent dans les meilleures conditions, un libre-échange n'est pas possible quand on voit la situation actuelle de nos agriculteurs qui sont dans la souffrance, qui sont dans ce mécontentement, parce que les prix ont augmenté, mais leurs salaires n'ont pas augmenté. Et justement, hier, le Premier ministre a dit qu'il a donné l'ordre pour qu'ils soient payés et qu'ils reviennent au travail. Est-ce que la solution est qu'ils les payent simplement, ça va régler le problème de fond, non? Le problème de fond, c'est le système qui est mis en place qui ne convient pas à nos agriculteurs parce qu'ils ne sont pas dans sa juste valeur, dans la production, également la protection d'un certain produit. Donc, revenir à la base de la santé mentale. Revenir à la base aussi sur la manière comme le gouvernement avec l'Union européenne essaye de créer le libre-échange et que cela ne convient pas ni à nos agriculteurs, ni à nous en tant que consommateurs. Et donc, c'est vrai qu'ils sont en grève. Et d'ailleurs, la manière comme les agriculteurs français sont vus à l'étranger, c'est qu'ils se plaignent, les Français en général, si on voit quand on parle de manifestations à l'étranger, disent non, mais la France, c'est toujours des manifestations. Et c'est pas un regard simplement de l'extérieur, sinon en disant, mais les agriculteurs, ils ont le droit de manifester. Ils ont le droit de faire que leur voix soit entendue et justement qu'ils agissent de manière juste pour améliorer cette communication, mais que le système qui va être mis en place ne soit pas simplement un système de manière économique, mais aussi pour eux en tant qu'êtres humains, que leur travail soit considéré et le respect de leur manière d'agir.
Jean-François, oui. Alors, moi, ça me laisse vraiment très perplexe cette situation. Mm-hmm. Tellement, il me semble, il est évident, et vous avez dit beaucoup de choses dessus sur le fait. Il me semble évident le fait que les exploitants agricoles, hein, voilà, d'abord, sont pas un groupe aussi homogène qu'on peut le laisser penser. Hein, ça a déjà été évoqué, c'est-à-dire que entre le grand céréalier, le Abos, et l'entreprise familiale du Fin-Fond de l'Ariège, il y a quand même une marge. Ce qui me laisse perplexe, c'est que l'éleveur familial de l'Ariège puisse imaginer que le grand céréalier de la Beauce est aujourd'hui le fournisseur de grains et de semences, puisse le représenter, qu'il fasse partie du même groupe social. Ça, c'est quelque chose qui me laisse perplexe.
Et les aides ne sont pas les mêmes, pardon.
Bien entendu,
aides ne sont pas les mêmes d'un à l'autre. Voilà. Ceux qui touchent les miettes et ceux qui touchent le pactole.
Et quand on regarde, et pour ça, il n'y a pas besoin d'aller chercher très très loin, me semble-t-il.
dans les études qui peuvent être faites, ou les constats au-delà des études, hein, je veux dire, c'est assez lumineux. Je me dis comment se fait-il que les gens peuvent s'enferrer dans une situation comme celle-là, sans voir effectivement le tissu de contradiction dans lequel ils sont. Voilà. Et qu'est-ce qui explique une telle violence? Alors, au passage, on pourrait quand même remarquer là aussi que deux poids deux mesures, hein, sur la manière dont il y a des violences acceptables, c'est-à-dire qu'on a une bonne vieille tradition dans laquelle on accepte la violence de la FNSEA, qui est au centuple de ce qu'il est impossible d'admettre par le ministère de l'Intérieur de la part de jeunes qui manifestent par ailleurs. Voilà. Mais qu'est-ce qui peut expliquer cette situation-là? Là aussi, les politiques sont au chevet, tout le monde aujourd'hui découvre la misère des agriculteurs que tout le monde connaît par ailleurs, hein, et on voit bien l'extrême droite, ça a été dit 100 fois. Je me dis que c'est au-delà certainement d'une, on est là, certainement au-delà de la question purement des agriculteurs, des exploitations agricoles, du fait effectivement qui sont hyper exploités, et qui compris sont exploités par les gens qui sont censés les représenter. Mais peut-être aussi parce qu'on est dans une espèce d'effet de rupture entre, alors, la ruralité, hein, parce que les agriculteurs, j'étais un peu attentif au discours qui était servi sur les chaînes, je regarde peu les chaînes d'information continue parce que ça a tendance à me donner de l'asthme, mais il y a du règlement de compte dans l'air, j'ai l'impression, entre d'un côté la France rurale, l'histoire, les racines, hein, les vraies valeurs, ce qui fait notre identité, on entend des choses comme ça du côté du jeune Premier ministre qui connaît de très très près les réalités terribles du monde agricole, hein, et qui nous parle de la France, c'est vous, d'un côté. Donc il y a quand même quelque chose de cet ordre-là. Et puis la boboïtude des écolos citadins qui seraient des écologistes complètement alliés avec les technocrates de l'Europe. Voilà, il me semble qu'il se joue aujourd'hui, à travers cette crise-là, et au regard de la violence dans laquelle elle est, autre chose que les revenus moyens des qui est une vraie réalité, hein, du prix du lait et de la marge excessive qu'au fond la grande distribution par rapport aux producteurs qui se lèvent tous les matins pour entre guillemets traire les vaches, voilà. Et c'est ça, me semble-t-il aussi, qui est en train de se passer, comme certainement se sont passées des choses du côté des gilets jaunes. Comparaison n'est pas raison, bien entendu, hein, mais je peux pas m'empêcher de penser que là, vous avez la révolte des gens qui ont tout bien fait comme il faut, comme on leur a dit de faire, hein, et qui se rendent compte qu'ils se sont fait berner. Vous savez, ce petit côté-là, les gilets jaunes aussi, hein, et ça, c'est très violent. Et je pense que la violence à laquelle on est en train d'assister, c'est celle-là. C'est celle, en gros, des cocus magnifiques qui se sont fait avoir sur toute la ligne, qui ont été extrêmement dociles par rapport à ce qu'on leur a demandé et qui, maintenant, se réveillent de manière très violente sans, me semble-t-il, et là, c'est ça, ça nous refait un peu le coup des gilets jaunes, de construction politique derrière, d'alternative à ceux qu'ils ne supportent pas de manière légitime. Il n'y a pas de débouché politique aujourd'hui, au-delà des pantalons dans lesquels on assiste, de part et d'autre d'ailleurs, je veux dire, je me demande qui ne comprend pas ces malheureux paysans aujourd'hui, alors qu'on s'est tapé, c'était assez impressionnant, voilà. Donc, je crois qu'il y a aussi cette tonalité-là de la haine, hein, d'une espèce de crise qui va au-delà de la simple exploitation agricole, voilà. Voilà ce que j'avais dit de réagir par rapport à ça. Qu'est-ce que ça va donner? J'en sais rien, bien entendu. On pourrait toujours se dire, ça y est, ils vont se faire acheter. Hein, on va encore leur fourguer, effectivement, pour la énième fois, un certain nombre de promesses. Je crains quand même que
qu'à répétition comme ça, ces crises qui, encore une fois, de mon point de vue, des crises qui vont au-delà de la simple revendication du prix du gazole pour les gilets jaunes ou du litre de lait pour les agriculteurs. Il me semble que c'est autre chose qui est en train de se jouer. Et que ça ouvre des portes à, voilà, à des lendemains peut-être un peu douloureux, voilà.
Sachant que quand on regarde un peu ce qui se passe en Europe, on n'est pas isolé. Il semblerait que le mouvement fasse tache d'huile. Les Belges, les Allemands, les Néerlandais avaient déjà un peu manifesté. Peut-être les Espagnols et les Italiens. Alors soit y aura une certaine lassitude du mouvement. Il faut bien que ces gens aussi travaillent et rentrent dans leurs exploitations. Lassitude aussi peut-être de ceux qui les applaudissaient, non pas sur le... comme les infirmières sur la terrasse, mais les applaudissent au bord des routes. Là, ils vont commencer un peu à s'agacer parce qu'ils peuvent plus circuler. Le mouvement faisant tache d'huile en Europe, on va assister à autre chose.
Oui, c'est assez imprévisible.
Soit ils vont rentrer dans leur ferme, soit peut-être. Mais je ne vois pas trop la réponse que peut leur apporter le gouvernement aujourd'hui. N'est un changement profond... d'exploitation, de mode de fonctionnement, mais ça voudrait dire que on abandonnerait les politiques qui ont été les nôtres dans les 30 glorieuses, que la FNSA a porté haut en avant, mais ces grands dirigeants ont y intérêt, hein. On sait aujourd'hui le dirigeant actuel parfaitement estimable, certainement, oui, mais monsieur Rousseau, on sait ce qu'il présente, 700 hectares, ça n'a rien à voir, comme vous le disiez, le président de l'Ariège ou du Lot, ou le fraisier du Lot, ce sont des gens qui ont des vies complètement différentes, des marchés complètement différents, des produits complètement différents, et donc il ne peut pas y avoir un traitement unique pour tous ces gens.
Et ce que je trouve d'assez surprenant, c'est que il faille rappeler cet état de fait qui est que, par exemple, le président de la FNSEA est tout sauf un agriculteur. Chose connue, c'est de notoriété publique. Et je suis à jeun de voir dans les médias mainstream, comme on dit, rappeler ce genre de choses-là. Et il me semble que c'est une espèce de gigantesque jeu d'ombre, cette histoire autour de la question des agriculteurs, hein, qui est que c'est quasiment de l'autorité publique qu'on se raconte des histoires de ce point de vue-là. Tout le monde sait qui est le président de la FNSEA. C'est pas du tout secret, cette affaire-là, mais personne n'en parle.
Donc, au moins, celle qui avait précédé, Christiane Lambert, était élevée des cochons. Bon, certes, de façon assez importante. C'était pas une petite agricultrice, mais elle avait des cochons, elle mettait un peu les mains dans la boue et dans la merde, si je puis dire, ce qui n'est pas le cas du dirigeant actuel. Rappelons aussi qu'un agriculteur se suicide tous les deux jours. On nous parle des suicides, des policiers. Là, on ne parle jamais des suicides des agriculteurs.
Non, bien sûr, c'est pour ça que je parle de jeu d'ombre, comme si on était dans un tel niveau de contradiction dans ce qui est en train de la manière dont vit aujourd'hui le monde de l'agriculture, le monde de la paysannerie, qui est que on ne puisse même plus le penser et éventuellement réfléchir à son évolution. Autre élément de mon point de vue qui me paraît complètement contradictoire, c'est la situation dans laquelle l'alpha et l'oméga de la conception de ce que c'est que le rapport au travail dans le monde agricole, c'est toujours la mise en valeur de la supposée individualité. On est maître de son exploitation, on est maître de son temps, on fait ce qu'on veut. C'est dur, mais ça nous plaît. Hein, mais parce que je suis mon propre patron. Et par ailleurs, alors là, pour le coup, on est le premier de cordée, macronien, mieux que ça, hein, je veux dire, c'est, quand on discute, moi, il m'est arrivé de discuter avec des jeunes se destinant à des métiers qui étaient très souvent ceux de leurs parents. Et le discours était de dire, oui, mais moi, j'irai pas à l'usine parce que ce qui m'intéresse dans ce métier-là, c'est que je suis maître de mon temps, maître de moi-même et de mon avenir. Et qu'on a, ce faisant, avec une telle logique qui est celle de la logique de la libre entreprise, du marché et tout ça, on est arrivé à un système de régulation qui fait que les jeunes ne vivent plus que par des subventions, c'est-à-dire un système de régulation collective de dysfonctionnements qui sont des dysfonctionnements économiques.
C'est la PAC qui permet à l'agriculture, à beaucoup d'agriculteurs de fonctionner depuis plusieurs dizaines d'années.
Oui, et quand on les entend, pour une fois qu'on les entend, parce qu'on les entend pas trop souvent, eux-mêmes expliquent pour certains qu'ils ne souhaitent pas vivre de subventions, mais vivre de leur propre travail. Sauf que les systèmes de régulation collective ne sont pas aux endroits où on pourrait imaginer qu'ils sont.
Voilà, n'oublions pas l'intervention pernicieuse de la grande distribution, des industriels, et puis aussi de ces grandes coopératives agricoles qui sont devenues des monstres aujourd'hui, créées par des agriculteurs, mais le monstre a absorbé ceux qui l'ont créé. Moi, je me souviens d'une émission que j'avais faite avec Jean Gattel, ancien ministre qui écrit et qui travaille beaucoup là-dessus, et où on avait quand même, et il avait démontré, et peut-être un peu moins avec lui, combien ces grandes entités qui se parfument d'avoir des agriculteurs comme administrateurs, etc., en réalité, les agriculteurs sont devenus la chose de ces immenses coopératives qui ont des intérêts un peu partout, et voire à l'international aussi.
Oui, et ça demande aussi, me semble-t-il, de la part des gens qui vivent dans le monde agricole, une espèce de révolution de pensée qui devrait les amener à pas se tromper d'ennemis.
C'est le grand risque aujourd'hui, c'est-à-dire oui. qu'on va se tromper de cible, on va taper oui. sur l'Europe, on va taper sur les écologistes qui sont peut-être ceux qui sont les plus à même de les aider aujourd'hui. Et ça, c'est quand même un gros problème.
Et effectivement, moi, à ma connaissance, c'est les gens qui pensent de manière alternative à ça, sommes effectivement pour le moment largement minoritaires dans la profession qui, par ailleurs, verrouille à peu près tout ce qu'il est possible de verrouiller à l'échelle institutionnelle dans le monde agricole.
Alors, on aurait pu parler aussi du Mercosur, on aurait pu parler des accords. Alors, c'est un sujet extrêmement complexe parce que ces accords commerciaux, il faut les étudier à fond, ils ne sont pas que problématiques et que pernicieux. Il y a des intérêts pour certaines filières, d'autres sont défavorisés. Ce qui est certain, c'est que les produits qu'on reçoit, les agriculteurs des pays qui nous les envoient n'ont pas les mêmes suggestions que les nôtres, je l'ai dit tout à l'heure.
La concurrence est déloyale.
Ce qui est certain aussi, c'est que ces produits ne sont pas sur le plan sanitaire et écologique absolument garantis. Je n'ai rien contre les fraises d'Espagne, mais enfin, quand on sait comment elles sont élevées sous serre avec des produits chimiques qui circulent dans les gouttes-à-gouttes avec des gens qui les ramassent qui viennent de l'autre côté de la Méditerranée, des migrants marocains mais qui sont esclavagisés d'Andalousie, je crois qu'il y a une dizaine d'inspecteurs du travail donc pour toute la région c'est quand même un peu court, des gens qui ont les mains mangées par les produits qui sont sur les fraises, lesquelles fraises vont traverser toute l'Europe en camion pour nous les servir alors que y aurait peut-être sur le plan sanitaire beaucoup de choses à dire, sur le plan humain aussi. Donc c'est tout un ensemble, c'est tout un système dans sa globalité qu'il faudrait réformer. Je ne pense pas aujourd'hui que le gouvernement que nous ayons, je ne pense pas non plus que ceux d'Europe soient en mesure, comme ça, d'un coup de baguette magique, d'y procéder.
Ah, c'est un peu comme si on assistait au craquement successif d'un système économique qui est en bout de souffle, et qui petit à petit est en train de lâcher. Encore une fois, je trouve qu'on est à une ère qui est une ère des révoltes. Alors pour le coup, je reviens en boucle, entre une révolte ou une révolution, c'est qu'on peut imaginer, on peut espérer qu'une révolution, c'est quelque chose qui fait changer le monde. Je ne suis pas sûr qu'une révolte y arrive.
Oui, ça peut, on va considérer que pour l'instant, c'est le mot de la fin, parce que vraisemblablement, nous y reviendrons. Mais on peut être un peu pessimiste sur cette action qui nous intéresse aussi au premier chef. Hein, oui. C'est quand même notre vie, nos conditions de vie, notre alimentation. Oui, Léonore ?
Je voulais dire quelque chose concernant les accords. Et c'est vrai, ça serait bien qu'on puisse parler de différents accords qu'il y a actuellement. Mais le Mercosur en particulier, ça n'a pas forcément fonctionné en Amérique latine et dans le Mercosur. Et ça revient maintenant. Les gens en Amérique latine, les politiciens en Amérique latine, se disent que c'est l'opportunité pour travailler ensemble. Mais si on voit plus près, pour l'instant, c'est quelque chose qui a resté comme une idée, mais pas forcément comme un plan de travail, comme on dit, ils ont voulu en quelque sorte faire l'espèce d'Union européenne en Amérique latine. Mais le problème, c'est que mettre en accord avec les paysans des différents pays pour qu'ils travaillent dans le libre-échange, c'est un problème sanitaire, mais c'est un problème aussi. Les prix de là-bas, si on met en concurrence d'ici, ça veut dire que les agriculteurs d'ici sont perdants en niveau de prix. Donc, c'est des choses que je ne pense pas que c'est une solution pour améliorer la condition des agriculteurs ici. Au contraire. Voilà. Même si là-bas, ça va donner des opportunités pour des gens là-bas.
Conclusion, donc, qui nous laisse tous les trois, conclusion un peu pessimiste, parce qu'on ne voit pas la sortie possible. On sait vers où il faudrait aller. Beaucoup de gens le savent, mais ira-t-on un jour? En tout cas, peut-être pas avec les gens qui sont aux manettes aujourd'hui. Eh bien, vous aviez la parole, Léonore. On va vous la laisser pour nous parler de... On va aller ailleurs, on va aller en Argentine, on va traverser l'océan. Qu'est-ce qui se passe en Argentine? Comment ça fonctionne? Est-ce que ça dérape? Est-ce que... Voilà, où en est-on?
Alors, je me souviens qu'on avait fait une émission sur les élections. Enfin, on a fait une émission, on a évoqué le sujet des élections en Argentine. Et ce jour-là, on avait parlé de Javier Milei en tant que candidat. Et aujourd'hui, il est président. Mais son programme d'austérité amène le pays dans une phase très compliquée, économique. Aujourd'hui, l'inflation se trouve à 211%. C'est énorme. Et on trouve que la monnaie également, la dévaluation de la monnaie a été à 50%. Et justement, le 24, la semaine dernière, il y a eu la première manifestation de contestation, c'est la première contestation contre le gouvernement de Javier Milei. Le personnage, avant de mettre en place l'idée de ce qui se passe actuellement, c'est vrai que Javier Milei, c'est un homme très charismatique, même de sa coiffure jusqu'à sa manière de parler. Donc ça permet qu'il connecte avec les gens facilement, parce que son discours c'est un discours de « je vais régler la situation à travers un meilleur contrôle ». Il a dit dans son premier discours en tant que président, il n'a pas d'argent, no hay plata. D'ailleurs, ils ont fait une chanson à travers cette phrase. Après cette phrase, no hay plata, il n'a pas d'argent. Ça va être des mois très difficiles. Et il a commencé à dire, voilà, le ministère des gens, ça sert à rien. Il a commencé à réduire tous les ministères des genres, d'éducation, il a réduit absolument tout. Parce que il s'est dit que la manière comme le gouvernement il dépensait de l'argent, c'était pour amener dans la dérive économique du pays. Mais c'était drastique. Du jour au lendemain, les gens se retrouvent dans les rues en train de demander de contester toutes ces lois qui sont mises en place. Si on peut dire de l'Argentine, pour comprendre aussi au niveau de la politique, c'était un pays qui était dirigé par un mouvement politique d'un homme qui s'appelait Perón. Donc derrière Perón, il y a un mouvement des travailleurs, un mouvement politique, mais même une pensée. Donc lui, il vient avec une idée ultra-libérale. Et donc son idée, c'est de réduire le maximum de dépenses publiques pour que le pays puisse reprendre l'économie. Donc il dit de faire des mesures d'austérité, ça veut dire qu'aujourd'hui l'Argentine se trouve à 40% de pauvreté. Les gens ne peuvent pas, et les gens ils ont du mal à payer leurs factures, les gens ils ont du mal à payer même des choses quotidiennes. Donc c'est un impact sur la vie des gens, et donc il veut que le pays soit relancé, mais de quelle manière? Donc il souhaite réguler, ça s'appelle une loi qui est mise en place, qui s'appelle la loi Omnibus, donc il touche l'éducation, et je donne un exemple, dernièrement il a décidé de annuler tous les aides pour les étrangers, pour les étudiants étrangers. D'ailleurs, il y en avait Je ne sais pas le nombre exact, ça ne me vient pas à l'esprit maintenant, mais des étudiants colombiens, ce sujet est devenu même un problème diplomatique, parce que le jour au lendemain, il a coupé toute aide pour les étudiants étrangers, y compris, il y en avait énormément de Colombiens, donc le président colombien a dû intervenir, parce que il a même ordonné de quitter le pays. C'était des mesures drastiques du jour au lendemain. Je crois qu'il est en train de faire cet exemple, ça nous montre sa pensée. Il veut accélérer les choses pour l'Argentine, mais il veut également relancer l'économie. Et il dit qu'il n'a pas de plan B. Le plan, c'est son plan à lui, et qu'il faut le mettre en marche pour que le pays puisse reprendre une force qu'il avait perdue. Il préfère, au niveau international, se tourner vers les États-Unis. Il ne souhaite pas faire partie du BRICS, sinon de chercher de l'aide auprès des États-Unis, mais également trouver le financement de l'FMI, Fonds monétaire international. Donc son idée, sa vision géopolitique, c'est vers le Nord, et son idée également, c'est d'instaurer un gouvernement de contrôle, surtout économique. Ultralibéral, certes, mais en privatisant l'éducation, certaines entreprises, pour que les gens puissent trouver des boulots. Donc ça amène le chaos et ça amène un problème social, politique, mais les Argentins sont désespérés. Et de l'autre côté, on a les Argentins qui sont pour Milei parce qu'ils se disent la main forte, ils ont besoin d'une main forte. Ils font référence à Nayib Bukele, parce que c'est le président aimé, je ne dis pas que des Salvador, c'est de toute l'Amérique latine, un président qui dit, c'est avec ordre et avec la force qu'il faut gérer le pays. Donc il va dans cette même pensée, en se disant que avec des mesures d'austérité si importantes, il peut relancer l'économie, il peut aider aux gens à changer leur style de vie, mais surtout contrôler plus le gouvernement et la dépense publique. Donc en gros, c'est que en quelques mois après son élection, déjà, les gens sont dans la rue, déjà les gens sont en train de se dire qu'ils ne peuvent pas suivre ces mesures qu'il est en train d'appliquer. C'est compliqué, donc on va voir la suite dans quelques... Sur la mesure, on verra la suite de la politique en Argentine, mais c'est intéressant de la regarder de près, parce que ça nous donne une idée aussi de ce qui est en train de se poser comme pierre de l'édifice en Amérique latine, pour les autres pays. Parce que quand ça fonctionne dans un pays, dans le cas de Salvador, regardez, d'autres pays viennent, comme l'Argentine, et on verra comment les gens ils vont réfléchir au niveau des élections pour savoir qui va gouverner le pays. Donc je voulais tout simplement annoncer que les mesures d'austérité de Milei sont très contestées et que les gens ne sont pas contents. Mais il y a des gens qui le suivent, qui sont prêts à tout faire pour appliquer ces lois.
Bon, mais nous suivons. Merci, Léonard, de cette analyse. Jean-François, quelque chose à
non,
ajouter
on peut pas s'empêcher de penser qu'on a sous nos yeux avec l'Argentine... ce que c'est qu'un gouvernement d'extrême droite, voilà. Et alors bon, c'est vrai que l'Argentine, d'un côté, l'avenir des élections présidentielles aux États-Unis dans quelques mois, ça craque un peu partout. Et là aussi, comment un peuple comme le peuple argentin peut-il avoir cédé aux sirènes d'un pitre ? Parce que c'était quand même, moi, pour avoir regardé de temps en temps la campagne électorale en Argentine, comme on pouvait la voir à la télé, même en France, ça avait cette espèce de côté grand guignolesque, qui est que la politique en Argentine, mais bon, on en connaît des aspects ici aussi, est devenue une espèce de spectacle, pour le coup, dans lequel plus le coup est gros, plus on fait de score, au détriment d'un minimum de, comment dire, d'objectivité ou de tête froide.
Beaucoup voilà. de gens sont élus aussi, d'abord parce qu'on a tout essayé, qu'on a envie d'essayer la voilà, dernière
on
chose.
On va tenter,
mais voilà. aussi parce qu'il n'y a personne en face. Il n'avait pas grand monde en face.
Bien entendu.
Qui soit un des candidats crédibles, qui ne soit pas trop impliqué dans des gestions catastrophiques du passé.
Oui, oui. Et c'est quand même une situation qui a tendance à se...
En France, les dernières élections avaient le choix entre Mme Le Pen ou M. Macron.
Oui, oui, c'est ça.
Bon,
c'est ça.
Beaucoup de gens se maintiennent aujourd'hui parce qu'il n'y a personne à leur place. Donc, on prend, si je puis dire, le moins pire, ce qui ne produit pas les meilleurs résultats. Bien, je vous propose de passer l'heure avançant à grande marche d'aiguille, de passer à nos dernières rubriques, les brèves, celles des brèves que je vais ouvrir en vous parlant de cette curieuse nouvelle qui a été révélée par Le Monde et par la cellule d'investigation de Radio France, où on a découvert que plusieurs industriels du secteur agroalimentaire appliquaient aux eaux, en bouteille, des traitements interdits. Alors déjà qu'elles sont dans du plastique, et on sait ici, pour avoir fait une émission avec la sénatrice Préville, ce qu'il faut penser du plastique, et notamment dans ce type de bouteille. Mais là, ça veut dire qu'on a bidouillé l'eau, qu'on l'a fait en plus sous circonstances des plus aggravantes, avec l'accord du gouvernement et du cabinet de la première ministre Elisabeth Borne, qui a été parfaitement averti, puisque Nestlé, quand il a senti que les contrôleurs et les contrôles se resserraient, que les contrôleurs débarquaient chez lui, eh bien, on a couru vite chez la première ministre, qui a accordé à Nestlé, je cite, la possibilité d'autoriser par modification des arrêtés préfectoraux la pratique de la micro-filtration inférieure à 0,8 micron. Donc, un document qui apparaît assez technique, mais les journalistes du Monde et de Radio France ne s'y sont pas trompés. Ils ont découvert l'existence d'une tromperie qui dure depuis des années, avec donc la bénédiction des pouvoirs publics, et qui affecte en premier lieu notre santé. On a vraiment l'impression d'être gouverné et protégé. Jean-François.
Oui, alors d'abord, je m'insurge terriblement par le fait que vous m'ayez volé ma brève que je m'étais choisie. C'est une espèce de concours qu'on a entre nous, effectivement. C'est encore pire avec le savamé.
C'est pour ça que je démarre toujours le
voilà,
premier.
Voilà, voilà, ouais. C'est absolument...
Je dégaine le premier.
C'est absolument pas équitable. Voilà. Donc, mais quand même, j'avais un plan B. C'est pas comme Attal qu'il n'y a pas de plan D. Voilà. J'ai hésité à pointer cette brève parce que c'est un peu dangereux, mais je vais prendre le risque quand même. 300 euros pour les députés, 700 euros pour les sénateurs. Voilà. C'est ce que se sont votés comme marge supplémentaire, revenu supplémentaire. Donc, à la fois d'abord les députés puis les sénateurs. Alors, vous voyez, déjà, on se situe socialement, 300 pour les députés, 700 euros. Autrement dit, les confrontés à l'inflation, nos députés et nos sénateurs sont obligés de s'augmenter parce que vraiment, ils n'y arrivent pas. Alors, je vais être, au risque d'être un poil peut-être trop long, j'ai hésité parce que je me suis dit... Ça fait quand même un peu populiste, cette affaire-là. De s'indigner de ce genre de choses-là, c'est pas très politique. Et puis, je me suis dit, non, peut-être que ça l'est plus qu'on imagine politique. Comment se fait-il? Et c'est vraiment une question qui est là aussi que je pose, hein, que ces personnes-là, assistées de conseillers en communication et de gens de spin doctors divers et variés, comment se fait-il qu'ils ne mesurent pas l'impact que ça peut avoir auprès d'un bon nombre de nos concitoyennes, l'impact de l'image que ça donne de ce que c'est que le personnel politique et de notre fonctionnement démocratique. Sont-ils si loin de nous qu'ils ne réalisent pas ce qu'ils sont en train de faire ce faisant? Et on va bien entendu nous servir le fait que leur reprocher ça serait populiste. Mais le mesure-t-il réellement? Voilà.
Ce qui a permis au Canard Enchaîné de cette semaine de titrer sous cette nouvelle, nous aussi, on s'est ramassé du blé.
Voilà, voilà.
Léonore.
Alors, une brève, c'est, ils ont fait une étude sur la pollution de l'air dans les écoles élémentaires. Et chaque année, ils se sont rendus compte qu'il y a de plus en plus de cas d'asthme, et c'est dû à la pollution qu'il y a dans certaines écoles, dans les classes. et qui produit les chaises en plastique, les produits qui s'utilisent quotidiennement. Et donc ça pollue l'air. Il y a, ça s'appelle le format, je n'arrive pas bien à le prononcer, formaldéhyde. Je peux, pardon, à l'autrice qui nous écoute. Et ça crée une pollution dans l'air et les enfants sont affectés. Donc il y a de plus en plus des cas d'asthme. Et à revoir hein, la manière comment nos enfants ils sont à l'école et de mesurer la qualité d'air, mais la contamination à laquelle on est exposé tous aujourd'hui.
Avant-dernière rubrique, le fameux « ça va mieux » que vous évoquiez, Jean-François, il y a quelques instants, alors que j'ouvre aussi, comme ça je suis sûr qu'on ne me la piquera pas. Non, moi je vous emmène en Allemagne. Vous avez vu que le parti d'extrême droite AFB, qu'on peut traduire par « alternative pour l'Allemagne », a perdu son parti de remporter une deuxième présidence de canton dimanche. Il y a eu une énorme également mobilisation de la société, des manifestations d'une ampleur inédite dans le pays ont eu lieu contre le fameux programme de cette AFD. Il faut dire quand même que ce sont des gens qui sont anti-migrants, anti-système et qui ont discuté en fin d'année 2023 d'un plan d'expulsion massive du pays d'étrangers et, entre, ouvrez les guillemets, de citoyens non assimilés, ce qui permet d'y mettre un peu tout ce qu'on veut là-dedans. Et donc les Allemands sont descendus courageusement, d'ailleurs premier avec leur premier ministre en tête hein, de la manifestation, et ont dit non fermement et massivement. Bravo à eux.
Des fois, ils nous font rêver, nos amis allemands,
oui,
des fois.
Oui, tout à fait.
Alors, ça va mieux, donc la rubrique difficile, c'est toujours le challenge qu'on se donne, mais écoutez, j'en ai trouvé un, hein, ça va mieux, c'est en France, hein. Avec le fait que nos députés viennent de voter l'inscription de l'interruption volontaire de grossesse dans la Constitution.
Encore faut-il que ça passe au Sénat, qui a déjà, par l'intermédiaire de son
président... On dit pas ça va bien, on dit ça va mieux. C'est donc très relatif. Alors, bien entendu, ça ira vachement mieux, pour dire comme ça, le ça va mieux. Si d'une part, effectivement, nos sénateurs qui sont des parangons de féminisme et d'inscription dans l'évolution de la société votent effectivement de manière identique le texte. Et la deuxième des choses, si au-delà de la question de principe, on met en place aussi les conditions de l'effectivité de ce droit-là, parce que, encore une fois, je fais partie des gens qui pensent qu'un droit, c'est bien, mais de le rendre effectif, c'est mieux.
Qu'est-ce qui va mieux, Léonore? Pour vous,
il va mieux, on va dire, qu'en Savoie, parce qu'ils ont mis en place une plateforme pour accès gratuit à la culture dans la région. Et donc, et ça, c'est bien quand les gens peuvent avoir accès gratuitement à la culture, hein, que les gens s'intéressent et que les gens participent. Ça va mieux.
Allez, un conseil culturel. Ben, tenez, vous avez la parole, Léonore, conservez-la.
Continuant avec la culture, j'aimerais bien dire que la ministre de la Culture, que vous la connaissez bien, a dit qu'il faut rassembler les forces au niveau de l'audiovisuel public. Donc, l'idée, c'est que les chaînes, la radio, la télévision, puissent avoir plus de moyens, mais plus de force dans la culture. Donc, bon, dans les informations, mais elle dit que, en gros, qu'il faut s'unir pour mieux produire et dans l'audiovisuel. En France, mais elle parle de l'Europe aussi. Donc, bien, elle cite l'Angleterre.
Nous allons voir
l'Allemagne.
Nous allons voir combien de temps nous allons la garder. Je crois qu'il y a eu 4 ministres de la Culture en 4 ou 5 ans. Donc,
on va voir.
Je suis désespéré à l'idée que nous nous en séparions.
Oui, effectivement, ce serait la plus mauvaise nouvelle du monde. Jean-François,
en attendant les élections municipales à Paris, oui. Alors, sur le culturel, un film, un livre et juste un commentaire. Le film, c'est The Old Oak de Ken Loach, le vieux chêne, qui est sorti en fin 2023. Mmh. Allez le voir, c'est un film. On parlait de la loi Darmanin, de la loi migration au début. Ça parle de la question des migrants, mais ça se passe en Angleterre. Et c'est du Ken Loach, vous ne serez pas déçus. Eureka, le livre de Pascal Marchand et Jean-Benoît Mébec, qu'on avait déjà évoqué, qui viennent d'avoir le prix de la Commission nationale française de l'UNESCO. C'est un spécial copinage pour ces deux auteurs et de ce livre qui est quand même une sacrée somme. Et puis juste un commentaire. Je pense à Anatomie d'une chute de Justine Triet. Vous savez ce fameux film que la Macronie n'aime pas, que le CNC en France n'a pas été foutu de présenter à la cérémonie des Oscars aux États-Unis,
qui s'appelle Avoir du nez
et qui risque de faire un malheur. Je peux pas m'empêcher de sourire.
Voilà, et moi, je vais vous recommander deux choses. D'abord, un film, mais l'équipe cinéma de la radio vous en parlera mieux que moi. C'est La Zone d'intérêt de Jonathan Glazer, qui est un film absolument époustouflant que j'ai eu la chance de voir au festival de Carcassonne, drivé par notre ami Étienne Garcia, avec cette phrase de Jonathan Glazer: nous avons besoin que le génocide ne soit pas un moment calcifié de l'histoire. Et un film totalement hallucinant dont je suis sorti complètement assommé. Je vous conseille vivement d'aller le visionner. Et puis un livre, hein, puisque nous vivons dans un monde infiniment compliqué à comprendre, certains ouvrages permettent de mieux le décoder, alors faut pas bouder son plaisir. Et le livre intitulé « Géo-histoire, une autre histoire des humains sur la Terre » et de ces livres-là, il a été écrit par un historien géographe, Christian Grataloup, c'est aux Arènes. On y parle de géologie, d'anthropologie, de climatologie, de démographie, de génétique, même d'économie. Et Christian Grataloup dessine dans ce livre lumineux, parce que c'est un livre extraordinaire et pionnier, avec beaucoup de cartes, une autre histoire des sociétés humaines. Donc je vous le conseille, Géohistoire, Christian Grataloup, aux éditions Les Arènes. Voilà, eh bien écoutez, nous sommes arrivés au bout.
Je n'ai pas donné mon conseil culturel.
Oh, pardon.
Alors, le 2 février, je fais vite, le 2 février, il y a un concert au métronome de Roberto Fonseca. Voilà, allez-y.
Voilà. Merci Léonore, merci Jean-François, merci Jacques aussi, je vous remercie.
Merci beaucoup, merci Jacques.
Il n'y a pas de raison. Hein. C'était Ça va mieux, une émission de Léonore Socaraz, de Jean-François Mignard et de Jacques Lavergne, avec à la réalisation Léo Touroul, que l'on remercie. Vous pourrez bien sûr retrouver le podcast de cette émission ainsi que toutes les autres sur le site d'Esprit Occitanie. À bientôt pour une nouvelle émission de Ça va mieux. Merci de votre fidélité. Belle journée, belle soirée à toutes et à tous.